Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal grâce à Mzati. Malgré la démission du Premier ministre, le président de la République, Félix Tshisekedi, demande au même gouvernement d'expédier les affaires courantes au regard, selon lui, de la situation particulière que traverse les pays en attendant la formation du nouveau gouvernement. D'aucuns se demandent, est-ce que cette décision du président d'autoriser les membres du gouvernement élus députés et dont les pouvoirs ont déjà été validés d'expédier les affaires courantes ne viole pas la Constitution? Restez avec nous pour en savoir plus. Insécurité au Nord Kivu. Les femmes de cette région montent au créneau pour exiger la libération de toutes les entités occupées par les terroristes du M23. Elles ont manifesté ce mercredi à Goma en marchant jusqu'au cabinet du gouverneur des provinces. L'invité de ce journal est le président national de la société civile environnementale. Omer Kabasele s'exprime sur le changement climatique de plus en plus ressenti dans la ville de Lubumbashi où il pleut de moins en moins. Une situation qui inquiète notamment les agriculteurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par la démission hier du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend acte de cette démission, mais demande au gouvernement Sama d'expédier les affaires courantes. Dans un communiqué officiel émanant du directeur du cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi motive sa décision par la situation particulière que traverse les pays et en attendant la formation du nouveau gouvernement. Ce qui veut dire que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et son équipe gouvernementale, chacun en regard de ses fonctions, vont continuer à gérer le pays, mais sans avoir le plein pouvoir, ajoute le communiqué de la présidence. N'est-ce pas, Michel Kifindangoy?
Autorisé à expédier les affaires courantes, le gouvernement démissionnaire est soumis à un certain nombre de restrictions. Il s'agit notamment de la suspension jusqu'à nouvel ordre des recrutements, nominations, promotions et mouvements du personnel à tous les niveaux. Les engagements, les liquidations et les paiements de toutes dépenses publiques, autres que celles liées aux charges du personnel, sont aussi suspendues. Notez aussi la suspension des missions de service à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement et le personnel de leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques dont les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas. Le président de la République interdit par ailleurs au gouvernement démissionnaire de recourir aux opérations de cession, de transfert ou aliénation des actifs de l'État, autres que celles déjà engagées. Toutefois, des cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumis à l'autorisation préalable du président de la République, précise ce communiqué signé par le directeur du cabinet du chef de l'État, Guylain Nyembo.
Merci à vous, Michel Kifindangoy. Et comment alors interpréter cette décision du président de la République qui autorise les membres du gouvernement élus députés et dont les pouvoirs ont déjà été validés d'expédier les affaires courantes? N'est-ce pas là consacrer un cumul qui plonge dans l'incompatibilité des fonctions en violation de l'article 108 de la Constitution? Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle, explique au micro de Michel Kifinda.
Voici ce qu'il faut comprendre. 1. La démission du Premier ministre chef du gouvernement entraîne ipso facto celle de tout son gouvernement. Deuxièmement, le président de la République a pris acte de la démission du gouvernement, c'est-à-dire qu'il a accepté les choix faits par les membres du gouvernement de siéger au niveau des assemblées. Cela dit, le président Félix Tshisekedi n'a pas autorisé le cumul des fonctions. Troisièmement, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, a évoqué la situation particulière du pays, c'est-à-dire la guerre. Il ne peut pas laisser le pays sans gouvernement pendant cette période. Et c'est pourquoi il a donc demandé à l'équipe démissionnaire d'expédier les affaires courantes. Ainsi, le Premier ministre et toute son équipe bénéficient du privilège du droit de suspension et du droit de leur mandat parlementaire. Et donc, pendant cette période d'expédition des affaires courantes, ils renoncent à leur mandat de député national et ils vont reprendre le droit après la fin de cette période.
Sécurité. Au Nord Kivu, une accalmie s'observe ce mercredi dans le groupement Buhumba, territoire de Nyiragongo. C'est après des violents affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 survenus hier dans la soirée dans cette zone. La société civile ainsi que les acteurs locaux affirment que les rebelles ont lancé sans succès des attaques simultanées sur les positions des FARDC sur la colline Kanyamahoro. Sur les fronts sud, dans les territoires de Masisi, la situation reste imprévisible sur toutes les lignes des fronts en dépit d'une accalmie observée depuis ce mercredi matin dans la cité de Saki. Kivu-Kasai et ses environs sous contrôle de l'armée. Nord Kivu toujours, la synergie femmes, paix et sécurité et les organisations artisans de la paix demandent au chef de l'État de redoubler d'efforts en vue de la libération de toutes les entités sous occupation des rebelles du M23. Cette recommandation est contenue dans le mémorandum adressé au président de la République par ces organisations. Elles l'ont remis ce mercredi au gouverneur des provinces, le général-major Peter Chirimwami. Les dames, vêtues en noir, les pieds nus, signe de deuil, ont effectué une marche jusqu'au cabinet du gouverneur. Madame Mouloulou Kisonia Rachel, point focal de la synergie femmes, paix et sécurité, explique cette démarche au micro de Chris Mukand.
Nous aimons notre pays et la RDC doit rester une et indivisible. Il n'y a pas Goma sans Bunagana, il n'y a pas Goma sans Rutshuru, il n'y a pas Goma sans Saki. Maintenant, ils ont fermé toutes les routes. Donc, pour s'approvisionner même de la nourriture, c'est devenu compliqué. Les déplacés ont laissé leur chat. À Goma, nous dépendons souvent de nos territoires. Alors, nous exigeons à notre président de la République de libérer toutes ces entités occupées par les terroristes du M23. Nous sommes fatigués. Nous ne voulons plus les morts. Nous ne voulons plus les tueries. Même les enfants sont tués, c'est compliqué. Vous voyez, les femmes déplacées de guerre sont en train de mettre au monde par terre et nous assistons à des cas des enfants qui meurent à cause du froid, les bébés. Nous sommes fatigués.
Par ailleurs, au Kasai oriental, un conflit foncier oppose depuis hier jusqu'à la mi-journée de ce mercredi les habitants des groupements des Bena Shimba et les Bena Mwembia dans le territoire de Katanda. Le bilan provisoire fait état de 3 morts, 4 blessés grièvement, une école complètement détruite et toutes les maisons de la localité de Bakwa Chitongu incendiées. L'autorité provinciale a convoqué d'urgence la réunion du Conseil provincial de sécurité au gouvernorat des provinces pour trouver des solutions à cette situation. Des explications avec Esther Dalafina.
Les sources concordantes affirment que les affrontements armés ont commencé ce mardi soir entre les habitants des groupements de Bena Shimba et de Bena Mwembia qui se soupçonnent mutuellement d'avoir exploité la zone tampon interdite à toutes les communautés de ce territoire. Les forces de l'ordre venues pour s'interposer ont été également la cible des attaques. La même source signale qu'il y a eu échange de tirs entre les protagonistes et les forces de l'ordre. Autour du soir, quelques habitants de Bena Mwembia ont barricadé la RN2 pour empêcher le passage. C'est ainsi qu'un véhicule en provenance de Mbujimayi vers Kabinda via le territoire de Katanda a essuyé des tirs. 2 personnes à bord de ce véhicule ont été atteintes par balles, dont le convoyeur. 2 autres passagers ont été blessés grièvement. Le convoyeur atteint par balle est tombé du véhicule à l'insu du conducteur et son corps a été retrouvé sur la route. Ces faits sont confirmés par l'administrateur du territoire de Katanda. Les sources sécuritaires précisent qu'une autre personne de la communauté a succombé au cours des affrontements avec les forces de l'ordre. C'est depuis la nuit dernière que les habitants de Mwembia ont vidé leur localité. Déjà ce mercredi, toutes les maisons de la localité de Bakwa Chitongu ont été incendiées et une école primaire construite avec le financement de l'UNICEF vient d'être complètement détruite. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Direction la province de l'Ituri où au moins 10 écoles primaires sont fermées depuis mardi dans la zone de santé de Réti, à 100 km de la ville de Bunia, dans les territoires de Djougou. Cela fait suite à la résurgence de la maladie à peste bubonique et des rougeoles qui touche surtout les élèves. Les autorités scolaires et sanitaires disent avoir pris cette mesure pour protéger les enfants et intensifier les mesures de riposte contre ces pathologies. Ezekiel Mouzalia.
Plus de 3000 enfants ne vont plus à l'école à la suite de la résurgence et de la propagation rapide de la rougeole et de la peste bubonique, deux maladies déclarées depuis le 3 février dans la zone de santé de Réti dans le territoire de Djougou. La première école à avoir été touchée est l'EPEC Pandroma, où une vingtaine d'enfants sont déclarés positifs après des analyses. D'autres cas ont été signalés dans les écoles primaires Chouni, Apollo, EPEC 2 Pandroma, Gola, Baïdjo, Bois, Montbleu et Réti. La décision de fermeture de toutes ces écoles est contenue dans une lettre du médecin chef des zones après concertation avec les responsables de la sous-division de l'EPST du Goudeu. L'objectif de cette mesure est de protéger les enfants contre cette maladie, mais aussi lancer une vaste campagne de pulvérisation de ces écoles en cours dans la zone en riposte à la résurgence de ces maladies. Benjamin Gabungandrou est un acteur de la protection civile dans la zone.
Chaque jour, les enseignants ramenaient les enfants au niveau de l'hôpital, ça faisait peur. Eux-mêmes avaient risqué d'être contaminés. C'est pour cette raison qu'on organisait la pulvérisation de ces écoles-là qui ont été les plus touchées, surtout Pandroma qui a été pulvérisé hier.
Cependant, cette mesure qui va durer 3 jours pourrait affecter des finalistes du secondaire qui effectuent leur stage dans ces écoles. Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Kwilu, les prix des biens de première nécessité augmentent sur le marché du Diofa, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. C'est le cas de plusieurs produits agricoles et manufacturés. Situation qui complique la survie de plusieurs familles de cette cité, affirme des sources locales. La nouvelle société civile congolaise de cette entité attribue cette flambée des prix notamment au taux élevé d'échange des dollars américains. Irène Mbomalozolo.
Par exemple, un basset de maïs jadis vendu à 15 000 francs congolais revient aujourd'hui à 22 000. Une mesurette de farine de maïs qui se vendait à 500 francs s'achète présentement à 1 000 francs congolais. Celle de cossette de manioc est passée de 1 000 à 2 000 francs. Un petit poisson chécheur de taille dite 16 moins revient maintenant à 2 000 francs au lieu de 1 000 francs congolais. Cette flambée de prix qui s'observe à Idjofa alors qu'il n'y a pas rareté sur les marchés concerne également les piments, les légumes, les savons de lessive ou de toilette, les sels, les sucres, les épices, etc. Pour les coordonnateurs de la nouvelle société civile du Diofa qui alerte, la hausse des taux d'échange des dollars américains ainsi que l'existence d'un marché privé dans cette cité sont à la base de cette surchauffe des prix. Arsène Kassiama en appelle à la responsabilité des autorités. Face à cette hausse des prix continuelle des denrées alimentaires, les ménagères disent éprouver d'énormes difficultés pour la survie de leur famille. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et dans la province de la Tchopo, 24 heures après la manifestation des enseignants issus de 4 territoires et quelques-uns de la ville de Kisangani payés par la Caritas, l'abbé coordonnateur de cette structure catholique, leur agent payeur, réagit. Selon l'abbé Ferdinand Batoubou, ces enseignants n'ont pas encore touché leur salaire du mois de janvier parce que le gouvernement congolais n'a pas encore alimenté leur compte bancaire à Kisangani. Jacques Mukonkole.
Les manifestants sont des enseignants venus des territoires de Bafouassende, Banalia, Ubundu et Basoko. Quelques-uns issus des écoles urbaines payées par la Caritas se sont joints à leurs collègues de l'intérieur pour réclamer leur salaire du mois de janvier non encore payé jusqu'à ce jour. Bientôt, ils totaliseront donc 2 mois sans salaire. Au lendemain de leur manifestation, le coordonnateur de la Caritas Développement donne de la voix. Pour monsieur l'abbé Ferdinand Batoubou, le compte de la Caritas n'est pas encore alimenté par le gouvernement central.
Le vrai problème, c'est celui qui peut bloquer ou peut payer facilement les enseignants, c'est le gouvernement. Quand le gouvernement central ne donne pas l'argent à l'Église catholique ne peut rien faire parce que c'est le gouvernement qui paye les enseignants. Les enseignants peuvent compter sur notre bonne volonté.
Rappelons que lundi dernier, ces enseignants ont manifesté devant le siège de la Caritas Développement. Ils ont non seulement bloqué l'entrée principale, mais ils ont aussi allumé un grand feu. Ce matin, ils rôdent encore tout au long de ce bureau, tout en espérant recevoir les nouvelles relatives à leur pays. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, 16 candidats à la présidentielle sur les 19 en lice s'inquiètent d'une lenteur inexplicable de la part du président Macky Sall pour fixer une date de la présidentielle et des lenteurs dans la reprise du processus électoral. Aucun obstacle juridique ne se dresse contre la fixation d'une date que le Sénégal et la communauté internationale attendent avec impatience et inquiétude, affirme-t-il dans un communiqué envoyé à la presse. Et puis, au Zimbabwe, le Zimbabwe bien sûr a lancé mardi une campagne d'urgence pour vacciner plus de 4 millions d'enfants contre la polio après que les autorités sanitaires ont détecté 3 cas causés par la mutation rare du virus affaibli utilisé dans les vaccins oraux dont une fillette de 10 ans qui a été paralysée en janvier.
L'invité.
Le changement climatique est de plus en plus ressenti dans la ville de Lubumbashi. Il pleut de moins en moins et les agriculteurs redoutent que cela n'impacte négativement sur la production agricole de cette année. Pour certains experts, la solution à cette situation passe par les reboisements à grande échelle. Mais sur le terrain, cette opération bat de l'aile. Nous en parlons avec le président national de la société civile environnementale. Omer Kabasile s'entretient avec Jean Gatou.
Omer Kabassele, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jean Gandou.
La province du Haut-Katanga connaît certaines perturbations climatiques et beaucoup d'experts indiquent que cela serait dû à la coupe abusive de bois pendant que vous êtes dans une structure qui s'occupe du reboisement. Où en êtes-vous en ce jour?
Ce sont des perturbations saisonnières très sérieuses et tout le monde est en train de le voir. On n'a pas la pluviométrie que le Grand Katanga a toujours eu en pareille période. Pour le cas de la province du Haut-Katanga, c'est la déforestation à un rythme exponentiel. Il y a des hectares de forêt qui tombent, qui disparaissent et qui malheureusement ne sont pas remplacés. Il y a une destruction systématique des forêts qui n'est pas accompagnée par des reboisements à grande échelle. Donc il n'y a pas proportionnalité entre la destruction et la restauration des écosystèmes forestiers.
Et pourtant il y a quelque temps, on vous a vu, c'est que d'autres ONG en train de reboiser. À ce jour, combien de plantures ont été mises sous terre?
L'année passée, on a réussi avec le Fonds forestier national à avoir un accompagnement financier pour la toute première campagne de reboisement à grande échelle sur l'ensemble de la province. On a eu à réaliser ces reboisements dans tous les territoires du Haut-Katanga. On a fait également un travail semblable dans la province de Lualaba. Et il faut dire que ce sont ces deux grandes provinces qui font que le taux de la déforestation soit très élevé à cause de la présence des grosses entreprises minières qui travaillent à plein régime. Et c'est dire aussi que ce sont les deux provinces qui contribuent notablement au recettes du Fonds forestier national. L'année passée, on a reboisé plus de 158 hectares répartis sur les 6 territoires du Haut-Katanga et on a fait également une centaine d'hectares dans les Lualaba, ce qui n'était pas suffisant par rapport au rythme de la déforestation, mais c'était un début. Cette année, je pense que vous l'avez constaté, nous ne sommes pas sur tout l'ensemble de la province. Pourtant, on devrait consolider les acquis de la première campagne et étendre les étendues à reboiser. Parce que la déforestation, elle continue.
Et les 158 hectares que vous avez reboisés, sur quelle étendue attendue?
Nos prévisions envisageaient réaliser même 500, 600 hectares pour la première campagne, avec en moyenne 100 hectares de reboisés dans chaque territoire. Ça, c'est selon ce qu'on a fait comme évaluation au niveau de la société civile environnementale. Mais on n'a pas atteint. Bon, le partenaire a donné les moyens qu'il avait sous la main et ça nous a permis à réaliser 158 hectares pour le Haut-Katanga et 100 pour le Lualaba.
Les entreprises contributrices, notamment les entreprises minières, refusent de continuer à subventionner cette opération au motif qu'elles payent déjà au Fonds forestier national. Ne pensez-vous pas qu'elles vont continuer à couper les arbres et vous allez continuer à attendre les financements qui ne viendraient peut-être pas et donc un travail voué à l'échec?
Vous savez, le Fonds forestier national a l'obligation de financer les opérations de reboisement parce que c'est ça son objet social. Et ce qui est aussi vrai, vous l'avez vu sur terrain, les entreprises minières ne sont plus prêtes à appuyer financièrement les opérations de reboisement. Parce qu'elles disent, et elles ont raison, que nous payons ce que nous devons au Fonds forestier national. Et le Grand Katanga, c'est l'espace hautement industriel, donc minier. Et nous, société civile, participons à la sensibilisation de ces miniers pour payer. Et depuis 3 années que nous travaillons en partenariat avec le Fonds forestier national, en sensibilisant ces industriels, les recettes sont historiques pour les Grands Katanga. C'est historique parce que nous travaillons en synergie avec le Fonds forestier national. Donc, voir l'échec, c'est la crainte que nous avons, mais nous pensons que notre partenaire est responsable et ne laissera pas les investissements être bousillés faute de financement. La direction générale est en train de se battre et nous pensons que d'un moment à l'autre, nous allons avoir les financements pour sécuriser ce qu'on est en train de faire dans les 3 territoires et être à même aussi d'encadrer ce que nous avons fait l'année passée sur les 6 territoires. Les 3 autres territoires qui ne sont pas concernés pour cette campagne, nous pensons que si les moyens sont là, il y a moyen de conserver les acquis de l'année passée et d'être en mesure de sécuriser ce que nous sommes en train de faire cette année sur préfinancement de la société civile.
Omer Kabassele, je vous remercie.
C'est à nous de vous remercier.
Notre invité Omer Kabassele était avec Jean Ngandou. Fin de ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda sous la supervision éditoriale de Pele Kipela Mondo. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiokapi.net. Au revoir.